Aristote, De la sensation et des choses sensibles, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Chapitre 1er, sommaire. Retour sur la répartition des facultés telle qu'elle a été exposée dans le traité de l'âme. Nouveau détail, la veille et le sommeil, la jeunesse et la vieillesse, l'inspiration et l'expiration, la vie et la mort, relation générale de la médecine de la nature. Importance de la sensibilité, elle est le caractère essentiel de l'animal. Rôle des divers sens. Comparaison de la vue et de l'ouïe, les aveugles de naissance sont plus intelligents que les sourds-muets. Paragraphe 1. Nous avons antérieurement étudié l'âme en elle-même et les facultés que possède chacune des parties qui la composent. C'est continuer le même sujet que de rechercher dans les animaux et même dans tous les êtres qui jouissent de la vie quelles sont les fonctions qui sont spéciales et celles qui sont communes. Supposons donc connu tout ce qui a été dit de l'âme, et parlons ici du reste, en commençant par les choses principales. Paragraphe 2. Les facultés les plus importantes, tant celles qui sont communes que celles qui sont spéciales dans les animaux, paraissent appartenir en commun à l'âme et au corps. Par exemple, la sensibilité, la mémoire, la passion, le désir et en général l'appétit. Et l'on peut y ajouter le plaisir et la peine. La plupart des animaux possèdent ces facultés. Paragraphe 3. En outre, il y a d'autres fonctions dont les unes appartiennent communément à tous les êtres qui jouissent de la vie et dont les autres ne sont accordés qu'à quelques-uns des animaux. Les plus essentielles, qui seules forment quatre couples où elles sont réunies deux à deux, sont la veille et le sommeil, la jeunesse et la vieillesse, l'inspiration et l'expiration, enfin la vie et la mort. Paragraphe 4. Nous analyserons chacun de ces phénomènes et nous verrons ce qu'ils sont et quelles causes les produisent. Paragraphe 5. Il appartient encore aux naturalistes de rechercher quels sont les premiers principes de la santé et de la maladie, puisque la santé et la maladie ne sauraient s'appliquer à des êtres privés de la vie. Aussi, la plupart de ceux qui s'occupent de la nature et parmi les médecins, ceux qui comprennent le plus philosophiquement leur art, arrivent d'une part de l'étude de la nature à la médecine, qui l'achève, et d'autre part commencent les études médicales par l'étude de la nature. Paragraphe 6. Les fonctions énoncées plus haut sont évidemment communes au corps et à l'âme. Et ce qui le prouve, c'est que toutes se manifestent soit en même temps que la sensation, soit à la suite de la sensation. Quelques-unes ne sont que des modifications de la sensibilité et de ses manières d'être. D'autres en sont la garantie et l'exercice régulier. Les autres, au contraire, en sont la perte et la privation. Or, s'il est quelque chose d'évident, c'est que la sensation n'arrive à l'âme que par le corps, et l'on peut s'en convaincre à la fois et par le raisonnement et sans le raisonnement. Paragraphe 7. Mais nous avons déjà dit dans le traité de l'âme ce que c'est que la sensation et ce que c'est que sentir. Et nous y avons expliqué le rôle que joue cette faculté dans les animaux. Tout animal doit de toute nécessité, en tant qu'animal, être doué de sensibilité. car c'est par ce caractère que nous avons essentiellement distingué ce qui est animal de ce qui n'est point animal. Paragraphe 8. Tous les animaux spécialement, et chacun comme tel, possèdent nécessairement les deux sens du toucher et du goût. Le toucher, par la raison qui a été exposée dans le traité de l'âme, et le goût, en vue de l'alimentation. C'est ce sens, en effet, qui discerne dans les aliments ce qui plaît et ce qui est désagréable, afin que l'animal fuit l'un et recherche l'autre. Et en général, la saveur est l'affection propre de la partie de l'âme qui a le sens du goût. Paragraphe 9. Les sensations provoquées par les choses extérieures, dans ceux des animaux qui sont doués de mouvement, et par exemple celles de l'odorat, de l'ouïe et de la vue, sont données à tous ceux qui en jouissent pour assurer leur conservation. Grâce à elles, après avoir senti préalablement leur nourriture, ils la recherchent et ils fuient ce qui leur semble mauvais et dangereux. Mais dans les animaux qui sont doués en outre de la réflexion, ces facultés ont pour but d'assurer leur bien-être. Elles leur apprennent à distinguer dans les choses une multitude de différences qui leur fournissent la connaissance et des choses que leur intelligence peut penser et de celles qu'ils doivent faire. Paragraphe 10. De toutes ces facultés, la plus importante pour les besoins de l'animal ainsi qu'en elle-même, c'est la vue. Mais pour l'intelligence, bien qu'indirectement, c'est l'ouïe. Ainsi, la faculté de la vue nous révèle dans les choses les différences les plus nombreuses et les plus variées, car tous les corps, sans exception, ont couleur. Par suite, c'est surtout la vue qui nous en fait percevoir les propriétés communes. J'appelle propriétés communes la figure, la grandeur, le mouvement, le repos, le nombre. Au contraire, l'ouïe ne fournit en général que les différences du son. Et pour quelques êtres, elle fournit aussi les différences de la voix. Mais indirectement, c'est l'ouïe qui rend les plus grands services à la pensée, puisque c'est le langage qui est cause que l'homme s'instruit. Et que le langage est perçu par l'ouïe, non pas, il est vrai, en lui-même, mais indirectement. C'est que le langage se compose de mots, et que les mots ne sont jamais que des signes. Voilà bien pourquoi, parmi les hommes qui, de naissance, manquent de l'un de ces sens, les aveugles nés sont plus intelligents que les sourds-muets. Paragraphe 11. Du reste, on a traité antérieurement des avantages spéciaux de chacun des sens. Chapitre 2. Sommaire. Rapport possible des sens aux éléments. Explication du phénomène qui se passe dans les yeux et de la lumière qu'on y voit quand on se les frotte. La vue n'est pas de feu, comme l'ont dit Empédocle et Timée. Elle est d'eau, comme l'a fort bien compris Démocrite, qui s'est d'ailleurs trompé sur la théorie des images. Effet de quelques blessures sur les yeux. L'ouïe se rapporte à l'air, l'odorat au feu, le toucher et le goût se rapportent à la terre. Paragraphe 1. Pour savoir précisément quel est le corps qui agit naturellement dans chacun des organes, on a cherché quelquefois des analogies dans les éléments des corps. Mais comme il n'est pas facile de comparer les cinq sens aux éléments, qui ne sont que quatre, on a été conduit à imaginer un cinquième élément. Paragraphe 2. On s'accorde unanimement à rapporter la vue au feu, Et cela tient à ce qu'on ignore la vraie cause du phénomène suivant. Lorsqu'on se presse l'œil et qu'on le frotte, il semble qu'il en sorte du feu et des étincelles. Cette apparence se produit surtout dans les ténèbres, ou bien lorsqu'on ferme les paupières, parce que de cette façon aussi, l'on se met dans l'obscurité. Ce phénomène, d'ailleurs, soulève encore une autre question. S'il est impossible, en effet, d'ignorer qu'on sent et qu'on voit ce qu'on voit, il s'ensuit nécessairement que l'œil se voit lui-même. Or, pourquoi cette sensation n'a-t-elle pas lieu quand on laisse l'œil en repos? Paragraphe 3. L'explication de ce phénomène résoudra à la fois le doute qu'on élève et cette hypothèse qui veut que la vue soit du feu. Voici donc comment on peut l'expliquer. Les corps lisses brillent naturellement dans l'obscurité, sans pourtant produire de lumière. Or, ce qu'on appelle le milieu et le noir de l'œil paraît être lisse. Mais ce qui fait voir du feu quand l'œil est frotté, c'est qu'il arrive alors qu'on peut dire que ce qui est un devient deux. La rapidité du mouvement fait que ce qui voit et ce qui est vu paraissent différents. Aussi, le phénomène n'a-t-il pas lieu si l'on ne frotte pas l'œil très vite et s'il n'est pas dans l'obscurité. Car, je le répète, les corps lisses brillent naturellement dans l'obscurité. Et par exemple, les têtes de quelques poissons et le fiel de la sèche. Quand on frotte l'œil lentement, la sensation ne se produit pas de manière à faire croire que ce qui voit et ce qui est vu soient tout à la fois deux choses et une seule. Et c'est ainsi que l'œil se voit lui-même, tout comme il lui arrive également de se voir dans un miroir qui le réfléchit. Paragraphe 4. Si l'œil était de feu, ainsi qu'Empédocle l'assure, et ainsi qu'on l'avance dans le Timée, si la vision se produisait parce que la lumière sort de l'œil comme elle sort d'une lanterne, pourquoi la vue ne verrait-elle pas aussi dans les ténèbres? Prétendre qu'elle s'éteint dans l'obscurité après être sortie de l'œil, comme le soutient Timée, c'est une assertion parfaitement vaine. Qu'entend-on en effet quand on dit que la lumière s'éteint? Le chaud et le sec sont éteints par l'humide et par le froid, comme on l'observe pour le feu et la flamme dans les corps en ignition. Mais ni l'un ni l'autre de ces deux éléments ne se rencontrent dans la lumière, ou du moins s'ils y sont et qu'ils nous échappent, parce qu'ils y sont en quantité inappréciable, il faudrait alors que la lumière s'éteignît après le jour et dans l'eau, et que l'obscurité se produisît plus forte dans les temps de gelée. Si donc la flamme et tous les corps ignés subissent ces effets, pour la lumière il n'y a rien de pareil. Paragraphe 5. Empédocle a si bien cru que la vision a lieu quand la lumière sort de l'œil, ainsi qu'on vient de le dire, que voici les expressions dont il se sert. De même que quand on veut sortir, on se munit d'une lampe, éclaire du feu brillant dans une nuit d'hiver, et qu'on allume la lanterne, qui peut braver tous les vents d'hiver et repousser leur souffle changeant, la lumière qui se projette au dehors, d'autant plus loin qu'elle est plus forte, éclate en jets de rayons éblouissants. De même, le feu, dès longtemps renfermé dans les membranes, se répand par cette tunique légère dans la pupille ronde. Mais cette tunique voile l'épaisseur de l'eau qui les inonde, et le feu qui sort de l'œil s'étend d'autant plus loin. C'est ainsi que parfois Empédocle explique la vision. Ailleurs, il soutient qu'elle est produite par les émanations des objets qu'on voit. Paragraphe 6. Démocrite a raison quand il dit que la vue est de l'eau, mais il se trompe quand il croit que la vision n'est que l'image de l'objet. L'image se produit parce que l'œil est lisse, mais la vue ne consiste pas dans cette propriété de l'œil. Elle est uniquement dans l'être qui voit, et le phénomène signalé par Démocrite n'est qu'un effet de réflexion. Mais la théorie générale des images et de la réflexion n'était pas encore bien comprise au temps de Démocrite, à ce qu'il semble. Il est étrange aussi qu'il n'ait pas poussé plus loin qu'il ne l'a fait et qu'il ne se soit pas demandé pourquoi l'œil est seul à voir, tandis qu'aucun des autres corps où se forment également des images ne peut voir comme lui. Paragraphe 7. Que la vue soit de l'eau, c'est donc là un point qui est vrai. Mais il n'est pas vrai que l'on voit en tant qu'elle est de l'eau. On voit en tant qu'elle est diaphane. Et c'est une qualité qui est commune encore à l'air. Mais l'eau conserve le diaphane et le reçoit mieux que l'air. Et voilà pourquoi la pupille et l'œil sont d'eau. Les faits eux-mêmes sont là pour le prouver. Ce qui s'écoule des yeux quand on les perd, c'est de l'eau. Et dans les animaux qui viennent de naître, la pupille est toujours d'une très grande limpidité et d'un très vif éclat, tandis que le blanc de l'œil, du moins dans les animaux qui ont du sang, est épais et gras. Du reste, cette organisation a pour but d'y conserver l'humidité sans qu'elle puisse se congeler. Aussi, l'œil est-il la partie du corps la plus capable de résister au froid, car personne encore n'a eu le dedans des paupières gelées. Dans les animaux qui n'ont pas de sang, les yeux sont revêtus d'une peau dure et c'est elle qui leur fait rempart. Paragraphe 8. Mais c'est une opinion dénuée de toute raison que de prétendre que la vue voit par quelque chose qui sort d'elle et qu'elle s'étende jusqu'aux astres, ou bien même que, sortie de l'œil, elle se combine à une certaine distance avec la lumière extérieure, ainsi que quelques-uns le soutiennent. Certes, il serait beaucoup mieux que cette combinaison eût lieu dans le principe même avec l'œil. Mais cela est encore peu admissible. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison de lumière à lumière? Comment cela peut-il se faire? Le premier corps venu ne se combine point avec un corps quelconque. Comment la lumière du dedans se combinerait-elle avec celle du dehors? Et que fait-on de la membrane qui les sépare? Paragraphe 9. On a dit ailleurs qu'il était impossible de voir sans lumière. Mais que ce soit la lumière ou l'air qui soit interposé entre l'objet qui est vu et l'œil qui le voit, c'est toujours le mouvement passant par cet intermédiaire qui produit la vision. Paragraphe 10. Et voilà bien pourquoi l'on a raison de dire que le dedans de l'œil est de l'eau, c'est que l'eau est diaphane et l'on ne voit pas plus en dedans qu'en dehors sans lumière. Il faut donc que le dedans de l'œil soit diaphane et qu'il soit de l'eau puisqu'il n'est pas de l'air. En effet, l'âme n'est pas certainement à l'extrémité de l'œil, pas plus que l'organe sensible de l'âme. Évidemment, elle est en dedans. Il s'ensuit que nécessairement, il faut que le dedans de l'œil soit diaphane et qu'il puisse recevoir la lumière. Et cela peut bien se vérifier encore par les faits. Ainsi, Il est arrivé que des hommes blessés à la guerre, près des tempes, de manière à ce que les pores des yeux fussent tranchés, ont senti survenir une obscurité, comme si une lampe s'était éteinte. Parce qu'en effet, c'était bien une sorte de lampe que le diaphane, et ce qu'on appelle la pupille, tranchée en eux par la blessure. Paragraphe 11. Si, dans ces divers cas, les choses se passent comme nous venons de le dire, il est évident qu'il faut aussi rapporter et attribuer chacun des sens à quelque élément de la manière suivante. Il faut supposer que la partie de l'œil qui voit est de l'eau, que ce qui entend et perçoit les sons est de l'air, et que l'odorat est du feu. Paragraphe 12. En effet, ce que l'odoration est en acte, l'organe qui odore, elle est en puissance, puisque c'est la chose sentie qui fait que le sens est en acte, de telle façon que nécessairement, le sens n'est primitivement qu'en puissance. Mais l'odeur est une sorte d'exhalaison fumeuse, et l'exhalaison fumeuse vient du feu. Si l'organe de l'odorat est spécialement placé au lieu qui environne le cerveau, c'est que la matière du froid est chaude en puissance, et l'origine de l'œil est toute pareille à celle de l'odorat. L'œil est formé d'une partie du cerveau, et le cerveau est la plus humide et la plus froide de toutes les parties qui entrent dans la composition du corps. Paragraphe 13. Quant au toucher, il se rapporte à la terre, et le goût n'est qu'une espèce de toucher. Et voilà pourquoi les organes propres à ces deux sens, le goût et le toucher, sont rapprochés du cœur, qui est l'opposé du cerveau, puisqu'il est la plus chaude des parties du corps. Paragraphe 14. Bornons ici nos considérations sur les parties sensibles du corps. Chapitre 3. Sommaire. Complément de la théorie de la couleur exposé dans le traité de l'âme. Rapport de la couleur à la lumière et au diaphane. Définition qu'en donnent les pythagoriciens. Génération des couleurs, les couleurs primitives étant le blanc et le noir. Rapport numérique qu'on peut établir entre les couleurs comme on en établit entre les sons. Effet de la juxtaposition et de la superposition des couleurs. Observation des peintres. La couleur n'est pas l'effet d'une émanation comme l'ont prétendu quelques anciens philosophes. Elle est l'effet d'un mouvement. Considération générale sur le mélange des corps. Paragraphe 1. Quant aux choses mêmes qui sont perçues par chacun des organes des sens, en particulier, c'est-à-dire la couleur, le son, l'odeur, le goût et le toucher, il a été expliqué d'une manière générale dans le traité de l'âme. Quelle en est l'action et comment elles sont en acte relativement à chacun des organes spéciaux. Voyons maintenant en détail, ce qu'il faut entendre par chacune de ces choses, c'est-à-dire ce que c'est que la couleur, le son, l'odeur, le goût et enfin aussi le toucher. Nous commencerons par la couleur. Paragraphe 2. D'abord, toutes ces choses peuvent être considérées sous deux points de vue. Soit en acte soit en puissance. Jusqu'à quel point la couleur en acte et le son en acte se rapprochent-ils ou diffèrent-ils des sensations en acte que nous avons appelées vision et audition? C'est ce qui a été discuté dans le traité de l'âme. Expliquons ici ce que doit être chacune de ces choses pour produire la sensation et l'acte. Paragraphe 3. Ainsi qu'il a été dit dans ce même ouvrage, la lumière est la couleur du diaphane par accident. Lors donc qu'il y a un corps igné dans le diaphane, sa présence fait la lumière et son absence les ténèbres. Ce que nous appelons diaphane n'appartient pas exclusivement à l'air ou à l'eau ou à tout autre corps qui reçoit aussi sa dénomination de cette propriété. C'est en quelque sorte une nature et une force commune qui n'existe pas séparément, mais qui est dans ces corps et qui est également dans les autres, plus dans ceux-ci, moins dans ceux-là. Paragraphe 4. De même qu'il y a nécessairement une limite extrême pour les corps, de même aussi, il y en a une pour cette force particulière. Paragraphe 5. Ainsi donc, la nature de la lumière est bien dans le diaphane indéterminé. Mais quant au diaphane qui est dans les corps, il est bien évident qu'il a une limite. Paragraphe 6. C'est là précisément ce qu'est la couleur, comme on peut s'en convaincre par l'observation des faits. Car où la couleur est à la limite des corps, où elle est elle-même leur limite. Aussi, les pythagoriciens appelaient-ils la surface couleur. En effet, la couleur est bien à la limite du corps, mais elle n'est pas précisément la limite même du corps. Il faut penser, au contraire, que la même nature qui prend couleur en dehors, la prend aussi en dedans. Paragraphe 7. L'eau et l'air même paraissent également se colorer, et l'éclat qu'ils prennent quelquefois n'est pas autre chose qu'une couleur. Mais si la mer et l'air, quand on les regarde de loin, n'ont pas la même couleur que quand on s'en approche, c'est que la couleur est alors dans une substance tout indéterminée. Au contraire, pour les corps déterminés, à moins que le milieu qui les entoure n'en fasse changer l'aspect, l'apparence même de la couleur se fixe et se détermine. Ainsi, il est évident que de l'une et de l'autre part, c'est bien la même chose qui reçoit la couleur. Et c'est le diaphane qui, en tant qu'il est dans les corps, et qu'il est plus ou moins dans tous, fait que tous peuvent participer de la couleur. Paragraphe 8. Mais, comme la couleur est dans une limite, elle doit être aussi à la limite du diaphane. Et par conséquent, on pourrait définir la couleur, la limite du diaphane dans un corps déterminé. De plus, pour tous les corps qui sont diaphanes à proprement parler, comme l'eau ou tel autre corps analogue, et même pour ceux qui paraissent avoir une couleur propre, la couleur est également à leur extrémité. Paragraphe 9. Il est donc possible que ce qui produit la lumière dans l'air se trouve aussi dans le diaphane des corps déterminés. Il est possible qu'il ne s'y trouve pas et que le diaphane en soit privé. Et de même que dans l'air il y a tantôt lumière et tantôt obscurité, de même dans les corps il y a le blanc et le noir. Paragraphe 10. Quant aux autres couleurs, il faut dire, avec quelques détails, à quel nombre elles peuvent s'élever. D'abord le blanc et le noir pourront être placés à côté l'un de l'autre, de telle sorte que l'un et l'autre soient invisibles séparément à cause de leur petitesse, tandis que le résultat des deux sera pourtant visible. Or, ce résultat ne peut être ni blanc ni noir, mais comme nécessairement il doit avoir une couleur et qu'aucune de ces deux-là n'est possible, il faut qu'il ait une couleur mélangée et d'une autre espèce. Voilà donc un moyen d'expliquer comment il y a beaucoup d'autres couleurs que le blanc et le noir. Paragraphe 11. Le rapport des parties entre elles peut à lui seul créer aussi un grand nombre de couleurs. On peut, en effet, réunir trois parties contre deux ou trois contre quatre, et ainsi du reste pour d'autres nombres, et les combiner de cette façon l'une avec l'autre. Les parties, qui n'ont entre elles aucun rapport numérique, soit par excès, soit par défaut, sont incommensurables. Et en ceci, il est absolument comme pour les accords des sons. Les couleurs qui pourront être exprimées par des nombres proportionnels, aussi bien que les accords qui sont dans le même cas, paraissent être les couleurs les plus agréables, telles que le pourpre, l'écarlate et d'autres couleurs analogues. D'ailleurs, elles sont peu nombreuses, par la même raison qu'il y a également fort peu d'accords de ce genre. Mais les autres couleurs sont celles qui ne sont pas exprimables en nombre. Ou pour mieux dire, il serait possible de rendre toutes les couleurs par des nombres. Mais les unes sont ordonnées régulièrement, les autres ne le sont pas. Pas ordonnées parce qu'elles ne peuvent pas être exprimées en nombre. Voilà donc une première manière d'expliquer la génération des couleurs. Paragraphe 12. Une seconde, plus éclatante. Et ils emploient ce procédé, par exemple, lorsqu'ils veulent représenter quelque chose qui doit être dans l'air ou dans l'eau. C'est ainsi que le soleil paraît blanc par lui-même, tandis que, vu à travers un nuage ou de la fumée, il paraît rouge. Dans ce cas encore, les couleurs se multiplieront de la même façon qu'on a d'abord exposé, c'est-à-dire qu'on pourrait établir un certain rapport des couleurs qui sont à la surface avec celles qui sont plus profondes. Et il y en aura également qui ne seront pas du tout en rapport. Paragraphe 13. Il est d'ailleurs absurde de prétendre, comme le voulaient les anciens, que les couleurs ne sont que des émanations des corps et que c'est là la cause qui nous les fait voir. En effet, on doit nécessairement, dans ce système, réduire toutes les sensations au toucher. Et alors, il vaut mieux, sur le champ, admettre que l'intermédiaire indispensable à la sensation, qui, par le mouvement reçu de la chose sensible, produit la sensation même, qui, ainsi, a par le toucher et non par des émanations. Paragraphe 14. Ainsi donc, pour les couleurs placées les unes à côté des autres, on doit nécessairement supposer que, de même qu'elles ont une grandeur invisible, de même aussi, le temps dans lequel elles sont perçues est insensible, de sorte que les mouvements des deux couleurs nous échappent, et qu'elles semblent n'en être qu'une seule, parce qu'elles sont aperçues à la fois. Paragraphe 15. Mais dans l'autre, il n'y a aucune nécessité pareille. Seulement la couleur qui est à la surface étant mobile et étant mue par celle qui est au-dessous, elle ne produira pas un mouvement identique à celui qu'elle produirait étant seule. Aussi, elle paraît autre et ne paraît ni blanche ni noire. Paragraphe 16. Mais s'il ne peut y avoir aucune grandeur qui soit invisible, et si tout ce qui est visible a une dimension quelconque, il y aurait aussi dans ce cas un certain mélange des couleurs, et cette supposition n'empêche point encore qu'il n'en résulte une certaine couleur commune quand on regarde de loin. Nous montrerons dans ce qui va suivre qu'il n'y a pas de grandeur qui soit invisible. Paragraphe 18. S'il y a mixtion des corps, ce n'est pas seulement ainsi que le croient quelques philosophes quand les formes les plus petites possibles et qui échappent alors à nos sens sont placées les unes près des autres. Mais les corps peuvent aussi se combiner tout entiers et en restant tout ce qu'ils sont les uns avec les autres, comme on en a établi la théorie pour tous les corps au traité de la mixtion. Dans ce dernier sens, il n'y a de mélange que pour les corps qu'on peut réduire à leurs formes les plus petites possibles, comme des hommes, des chevaux ou des graines. Parce que pour les hommes, un individu homme est la forme la plus petite. Pour les chevaux, c'est un cheval. Et par suite, c'est la juxtaposition des individus qui, de la masse de ces deux genres d'êtres, forme un mélange. Mais nous ne disons jamais qu'un individu homme se mêle à un individu cheval. Quant à toutes les choses qui ne peuvent pas se diviser en leurs formes les plus petites, pareilles à celles-là, il ne peut pas y avoir pour elles le genre de mélange qu'on vient d'indiquer. Mais si elles se mêlent absolument, et c'est de ces choses qu'on peut dire surtout que naturellement elles se mêlent, nous avons dit antérieurement, dans le traité de la mixtion, à quelles conditions le mélange peut le plus ordinairement devenir possible. Paragraphe 19. Mais il est évident que quand les corps se mêlent, il faut bien que leurs couleurs se mêlent aussi, et que c'est là la cause vraie qui fait qu'il y a beaucoup de couleurs. Et ce n'est pas parce qu'elles sont superposées les unes sur les autres ou juxtaposées. Car ce n'est pas en regardant de loin qu'on ne voit qu'une couleur unique aux choses mélangées. C'est en les regardant de près. C'est de quelque façon qu'on les regarde. S'il y a plusieurs couleurs, c'est que les corps qui se mêlent peuvent se mêler dans des rapports très divers, tantôt en conservant des proportions numériques, tantôt en ayant seulement des différences incommensurables, du plus au moins, tantôt enfin, aussi, de la même façon que semblent se mêler les couleurs placées, soit l'une à côté de l'autre, soit l'une sur l'autre. Paragraphe 20. Nous avons déjà parlé ailleurs du mélange des corps. Nous dirons plus loin pourquoi les espèces des couleurs, des sons et des saveurs sont limitées et non pas infini. Paragraphe 21. Voilà ce que nous avions à dire pour expliquer la nature de la couleur et ses nombreuses diversités. Chapitre 4. Sommaire. Complément de la théorie du goût. Les saveurs nous sont mieux connues que les odeurs. Elles ne viennent pas toutes de l'eau seulement, comme Empédocle l'a soutenu. Réfutation de trois hypothèses. Opinion de quelques anciens naturalistes. Origine véritable de la diversité des saveurs. Action de la terre, du sec et de l'humide. La saveur est une modification du sec nutritif, nutrition des animaux et des plantes. Deux saveurs principales, le doux et l'amer, comme il y a deux couleurs principales, le blanc et le noir. Rapport des sept saveurs aux sept couleurs. Il y a de part et d'autre autant d'espèces primitives. Erreurs diverses de Démocrite. Il a eu tort surtout de rapporter les saveurs aux figures. Cette assimilation n'est pas soutenable. Paragraphe 1. Il a déjà été question du son et de la voix dans le traité de l'âme. Paragraphe 2. Parlons ici de l'odeur et de la saveur. Ces affections sont à peu près les mêmes, bien qu'elles ne se produisent pas toutes les deux dans les mêmes organes. La nature des saveurs est plus claire pour nous que celle des odeurs. Et la cause en est que nous avons l'odorat beaucoup moins fin que tous les autres animaux. Il faut ajouter même que l'odorat est en nous le moins bon de tous les sens dont nous sommes doués. Au contraire, nous avons le toucher plus délicat que tous les autres animaux. Et le goût n'est qu'une sorte de toucher. Paragraphe 3. D'abord, la nature propre de l'eau, c'est d'être sans saveur. Mais il faut nécessairement, ou que l'eau ait en elle toutes les saveurs, qui alors n'échappent à nos sens que par leur faiblesse même, comme le prétend Empédocle, ou bien que l'eau renferme une matière qui soit en quelque sorte le germe de toutes les saveurs, et qu'ainsi, toutes les saveurs viennent de l'eau, celle-ci d'une partie, celle-là d'une autre. Ou bien enfin, que l'eau n'ayant en soi aucune diversité de saveurs, la cause effective des saveurs soit par exemple la chaleur et aussi le soleil. Paragraphe 4. Mais ici, l'erreur où tombe Empédocle est par trop facile à découvrir. Ainsi, l'on peut bien se convaincre que les saveurs des fruits changent par l'effet de la chaleur, quand on les a détachés de l'arbre et qu'on les fait sécher au soleil ou au feu. Dans ce cas, apparemment, les saveurs ne se modifient pas parce qu'elles tiennent de l'eau quelques nouveaux principes, mais elles changent dans l'intérieur même du fruit. Soit que, se desséchant avec le temps, elles deviennent sûres et amères, de douces qu'elles étaient, et s'altèrent de cent façons. Soit que, soumises à l'action du feu, elles prennent, l'on peut dire, toutes les variétés possibles sans exception. Paragraphe 5. Il ne se peut pas davantage que l'eau soit la matière unique qui contienne le germe de toutes les saveurs, car nous voyons sortir de la même eau, comme d'une même nourriture, les saveurs les plus différentes. Paragraphe 6. Reste donc la dernière explication, à savoir que la saveur change parce que l'eau vient à éprouver quelques modifications. Mais il est évident que ce n'est pas par la puissance seule de la chaleur que l'eau acquiert cette puissance que nous appelons saveur. L'eau, en effet, est le plus léger de tous les liquides. Elle est même plus légère que l'huile, bien que l'huile, par sa viscosité, s'étende et surnage à la surface de l'eau, qui d'ailleurs est fluide, et qu'on retiendrait plus difficilement dans la main que de l'huile. Mais comme l'eau est le seul liquide qui ne s'épaississe pas en s'échauffant, il faut évidemment chercher une autre cause à la saveur, car tous les liquides qui ont de la saveur deviennent plus épais. Et ainsi, la chaleur ne fait que contribuer à cet effet que produisent aussi d'autres causes. Paragraphe 7. Toutes les saveurs qu'on découvre dans les fruits se trouvent aussi, à ce qu'il semble, dans la terre. Du moins, plusieurs anciens naturalistes ont prétendu que l'eau variait avec la nature du sol qu'elle traverse. Et cela est surtout manifeste pour les eaux salées, puisque les sels sont une espèce de terre. Ainsi, les eaux, quand elles filtrent dans la cendre qui est amère, produisent une saveur amère comme elle. Il en est de même pour les autres matières que les eaux traversent. Et de fait, il y a beaucoup de sources qui sont amères, d'autres qui sont acides, d'autres enfin qui ont les saveurs les plus variées. Paragraphe 8. Par là, on comprend sans peine comment c'est surtout dans les végétaux que se montre la diversité des saveurs. En effet, l'humidité, comme toute autre chose, est naturellement modifiée par son contraire. Or, c'est le sec qui est ce contraire. Aussi, l'humidité est-elle modifiée par le feu, car la nature du feu est sèche. Mais le propre du feu, c'est le chaud, comme le sec est le propre de la terre, ainsi qu'on l'a dit dans le traité des éléments. Du reste, en tant que feu et que terre, ces éléments ne peuvent, par leur nature, ni rien faire, ni rien souffrir, pas plus qu'aucun autre élément. C'est seulement en tant qu'il y a en eux une opposition des contraires qu'ils peuvent produire et souffrir des modifications de toutes sortes. Paragraphe 9. Ainsi donc, de même que quand on dissout quelques couleurs ou quelques saveurs dans un liquide, on fait que l'eau contracte cette couleur et cette saveur. De même, la nature agit sur l'élément sec et l'élément terreux. Elle filtre l'humidité à travers le sec et le terreux. Elle la met en mouvement par le chaud et lui donne enfin toutes les qualités qu'elle doit avoir. Paragraphe 10. La modification qui est alors produite dans l'humidité est précisément la saveur. Et cette modification affecte et change le sens du goût en le faisant passer de la puissance à l'acte, puisqu'elle amène l'organe qui sent à cet état nouveau, tandis qu'antérieurement, il n'était qu'en puissance. En effet, sentir n'est pas un acte analogue à celui par lequel on apprend ce qu'on ne sait point. C'est bien plutôt un acte analogue à celui par lequel on contemple ce qu'on sait. Paragraphe 11. Pour se convaincre que les saveurs sont ou une modification, ou une privation, non pas du sec en général, mais seulement du sec qui peut nourrir, il suffit d'observer qu'il n'y a pas plus de sec sans humidité qu'il n'y a d'humidité sans sec, car aucun de ces éléments ne peut isolément nourrir les animaux. Il n'y a que leur mélange qui soit nutritif. Dans la nourriture, que s'assimilent les animaux, ce sont les parties sensibles au toucher qui seules font l'accroissement et la mort de l'animal. Et la substance assimilée ne cause ces deux phénomènes qu'en tant que chaude et froide. Car c'est le chaud et le froid qui font l'accroissement de l'animal et son dépérissement. Mais l'aliment assimilé ne nourrit qu'en tant qu'il est perceptible au goût, puisque tout être ne se nourrit que de ce qui est doux en soi ou le devient par suite d'un mélange. Nous discuterons ce sujet d'une manière complète dans le traité de la génération. Ici, nous ne ferons que l'effleurer en tant qu'il nous sera nécessaire de le faire. Ainsi, c'est la chaleur qui fait augmenter l'être qui se nourrit. Elle élabore la nourriture, elle attire toutes les parties légères et elle laisse toutes les parties amères et salées qui sont trop lourdes. Paragraphe 12. Ce que la chaleur extérieure produit sur l'extérieur des corps, elle le produit aussi dans l'organisation intérieure des animaux et des végétaux. C'est par son action qu'ils ne se nourrissent que de ce qui est doux. Si les autres saveurs viennent se mêler au principe doux dans la nourriture, c'est de la même façon que l'on mêle dans celle-ci un corps salé et acide pour l'assaisonner. Et c'est en vue de contrebalancer ce que le doux et la partie qui surnage pourraient avoir de trop nutritif. Paragraphe 13. De même que les couleurs se forment du mélange du blanc et du noir, de même les saveurs se forment de l'amer et du goût. Les nuances des saveurs varient selon que le doux et l'amer y entrent en plus ou moins grande proportion. Soit d'après certains nombres et certains mouvements précis du mélange, soit même dans des proportions tout indéterminées. Les saveurs qui, dans leur mélange, plaisent au goût, sont les seules qui soient soumises à un rapport numérique. Ainsi, le gras est la saveur du doux. Le salé et l'amer sont à peu près de la même saveur. Le fort, l'âcre, l'aigre et l'acide sont des nuances intermédiaires. C'est qu'en effet, les espèces de saveurs ressemblent beaucoup à celles des couleurs. Des deux côtés, ces espèces sont au nombre de 7. Si l'on suppose, comme il est bon de le faire, que le gris soit une sorte de noir, il ne reste que le fauve qui se rapporte au blanc, comme le gras se rapporte au doux, l'écarlate, le violet, le vert et le bleu se placent entre le blanc et le noir, et toutes les autres couleurs ne sont que des mélanges de celles-là. Et de même que le noir est dans le diaphane la privation du blanc, de même aussi le salé et l'amer sont la privation du doux dans l'humide nutritif. Aussi, voilà pourquoi la cendre des choses brûlées est toujours très amère. C'est que la partie potable que ces choses contenaient est épuisée. Paragraphe 14. Démocrite et la plupart des naturalistes qui ont traité de la sensibilité commettent ici une erreur énorme. Ils croient que toutes les choses sensibles sont tangibles. Pourtant, s'il en était ainsi, il faudrait évidemment que chaque sens ne fut qu'une sorte de toucher. Mais il est bien facile de reconnaître que ceci est impossible. Paragraphe 15. Ils confondent en outre les perceptions communes à tous les sens avec celles qui sont propres à chacun séparément. Ainsi, la grandeur, la figure, le rude et le lisse, l'aigu et l'obtus dans les masses sont des choses que perçoivent en commun tous les sens, ou, si ce n'est tous, du moins la vue et le toucher. C'est là aussi ce qui fait que les sens se trompent sur ces choses, tandis qu'ils ne se trompent pas sur les perceptions propres, la vue sur la couleur et l'ouïe sur les sons. Il y a des naturalistes qui ramènent les perceptions propres aux perceptions communes, comme le fait encore Démocrite, qui, pour expliquer le blanc et le noir, prétend que l'un est rude et l'autre lisse. Paragraphe 16. Démocrite confond aussi les saveurs et les figures. Et cependant, connaître les choses communes appartiendrait à la vue bien plutôt qu'à tout autre sens, si aucun d'eux pouvait avoir cette faculté. Or, si c'était plutôt au goût qu'appartint cette fonction, les plus petites nuances dans chaque genre d'objet devant être discernées par le sens le plus délicat, il faudrait que le goût sentît mieux qu'aucun autre sens toutes les choses communes, qu'il jugeât le mieux aussi des autres figures. Ajoutons que toutes les choses sensibles ont des contraires. Ainsi, dans la couleur, le noir est le contraire du blanc, et dans les saveurs, l'amer est le contraire du doux. Mais la figure ne paraît pas pouvoir être contraire à la figure. Et par exemple, de quel polygone la circonférence est-elle le contraire? En outre, les figures étant infinies, il faut alors aussi que les saveurs soient infinies comme elles. Car comment telle saveur produirait-elle sensation, tandis que telle autre n'en produirait pas? Paragraphe 17. Voilà ce qu'il y avait à dire ici sur la saveur et sur ses rapports aux objets que perçoit le goût. Les autres faits relatifs aux saveurs doivent être étudiés spécialement dans cette partie de l'histoire de la nature qui concerne les végétaux.